Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on écoute une sonate de Bach, qu'on fume une cigarette ou qu'on développe la maladie d'Alzheimer ? Jean-Pierre Changeux s'est intéressé de près à toutes ces questions au cours de sa fourmillante carrière de scientifique. Pionnier des neurosciences, grand amateur d'art, il s'est attaché depuis ses débuts à l'Institut Pasteur à mieux comprendre le monde et faire progresser la connaissance. Membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France pendant plus de 30 ans, le neurobiologiste raconte dans un livre d'entretien avec le philosophe François Livonnet sa conception de la science, une conception résolument humaniste et questionnant des sujets comme l'éthique, l'art ou la création. Il est aujourd'hui au micro de Canal Académie pour nous raconter son itinéraire scientifique hors du commun. Jean-Pierre Changeux, bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir.
Merci d'être venu. Vous défendez une science résolument humaniste, donc utile à la société, qui fait progresser la connaissance. Mais pourtant, votre aventure a débuté par une expérience esthétique. Vous dites que la connaissance des causes et que l'expérience esthétique sont extrêmement liées. Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, ça veut dire que lorsque j'avais 12 ans, j'étais très attiré par le monde vivant, les insectes, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et très rapidement, je me suis intéressé aux mouches, et qui ont une grande diversité, qui, pour certaines, vivent dans des fleurs. Donc, il y avait vraiment un aspect esthétique. Et en même temps, j'ai essayé de le faire de manière systématique, ouais, de les conserver dans des boîtes classées et, si possible, avec le nom d'espèce. Donc, il y a dès cette époque-là un peu une connaissance de la science qui m'a été communiquée d'ailleurs par un professeur de lycée, Jean Batelier, qui lui-même m'a mis en contact avec Eugène Ségui, qui était professeur au Muséum d'histoire naturelle et qui s'intéressait très spécifiquement aux diptères et m'a beaucoup encouragé à poursuivre en étant aussi intéressé par la diversité que par la connaissance scientifique elle-même.
Alors, tout a commencé, vous venez de le dire, dans la forêt de Montmorency, à côté de la maison de vos grands-parents, où vous passiez vos week-ends enfants. Mais il y a donc la forêt, la nature, qui fut un terrain très propice au développement de votre passion pour le vivant. Mais il y a un autre lieu qui fut capital dans votre parcours, c'est donc l'école. Vous avez parlé de votre professeur, monsieur Batelier. Il vous a donné le goût de la connaissance des études alors que vous veniez d'un milieu assez modeste.
Oui, absolument. Il m'a aussi encouragé, pas simplement dans ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire la connaissance des espèces animales, mais aussi ce qu'il fallait que je fasse pour, disons, évoluer de mon milieu familial qui n'était pas intéressé ni par la science ni par l'art. Un milieu simple, très chaleureux, mais pour réussir dans ce domaine de la recherche, il fallait passer par l'école normale supérieure, m'a-t-il dit. Il a convaincu mes parents aussi. Et donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour entrer à l'école normale supérieure.
Et vous avez réussi. Oui. Alors, il y a Monsieur Batelier, mais il y a aussi une autre figure importante qui a fait irruption au début de votre parcours scientifique. Cette personne, c'est Jacques Monod. Il est aujourd'hui décédé, mais il fut le directeur de l'Institut Pasteur, un chercheur éminent, récompensé par un prix Nobel pour ses recherches sur la génétique. Et vous dites dans ce livre qu'il a suscité beaucoup d'admiration chez vous. Est-ce que vous diriez qu'il a été un mentor pour vous ?
Je pense que je n'aurais pas pu faire mon travail de biologie moléculaire et tout ce qui a suivi, parce que les neurosciences incluent la biologie moléculaire, bien entendu, sans Jacques Monod. Ça, il faut être honnête. Après ces séjours dans la nature, si j'ose dire, et là, j'ai compris que la biosynthèse des protéines était une activité extrêmement importante à comprendre pour le développement des des êtres vivants. Et j'ai rencontré Jacques Monod par hasard, alors qu'il posait sa candidature à la Sorbonne, comme professeur de chimie du métabolisme, enfin de biochimie, si j'ose dire. Et je l'ai pris par la manche et je lui ai dit, voilà, je suis en train de faire des expériences sur l'œuf d'oursin, la fécondation, je n'arrive pas à m'en tirer. Je ne sais pas doser des enzymes. Elle dit, ah bon ? Il m'a interrogé sur un certain nombre de choses, sur mon parcours académique, si j'ose dire. Il m'a fait venir à Pasteur, j'ai donné un exposé à Pasteur sur ma théorie. Moi, je prenais ça très au sérieux. Apparemment, tout le monde était un peu souriant. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais Jacques Monod m'a pris dans son bureau, m'a dit, écoutez, deux choses, une. Ou bien vous poursuivez ce qui vous intéresse à chimie du développement à l'étranger, vous quittez la France, il n'y a pas de laboratoire en France qui fasse ça. Ou bien vous entrez dans mon laboratoire et vous faites autre chose. Vous travaillez sur les bactéries. Alors ça m'a, sur le moment, horrifié. Parce que je perdais l'aspect esthétique, en quelque sorte, des êtres vivants. Je débutais un autre type d'activité esthétique qui était celui de la modélisation de molécules présentes dans les bactéries. Et ça, c'était un autre aspect aussi de ma vie esthétique, en quelque sorte. C'est d'abord, après un tutorat très, très strict de Jacques Monod, qui a duré à peu près 3 ou 4 mois. Il m'a dit, bon, écoutez, il faut faire votre thèse, préparer ce travail et trouver un sujet. Bon, j'avais entendu parler de l'existence d'une régulation d'activité des enzymes dans la cellule bactérienne. Mais là, c'était un sujet qui me plaisait beaucoup. Ça me rappelait un petit peu l'activation de l'œuf. Hein, bon. Et il s'agissait de comprendre le mécanisme moléculaire de cette relation entre le site catalytique, qui catalyse l'activité enzymatique, et le site régulateur, qui reconnaissait le produit final. Alors, le schéma classique est que les deux sites étaient chevauchants, et qu'il y avait une sorte d'interaction directe, compétitive, entre le substrat et l'inhibiteur de rétroaction. J'ai démontré qu'on pouvait découpler tout ça et proposer l'hypothèse que, en fait, il y avait deux sites distincts qui même étaient à distance sur la même molécule et communiquaient entre eux par un changement conformationnel. Je suis arrivé, après ces premières observations, publié seul, en quelque sorte, à poursuivre ma thèse. Et puis, à la fin de ma thèse, il a lu les travaux que j'avais faits. Il connaissait aussi les travaux qui étaient en cours dans d'autres laboratoires aux États-Unis. Et il m'a dit, bon, il faut faire un modèle, il faut réfléchir sur ce mécanisme. Il se trouve que moi, je voulais le faire indépendamment pour terminer ma thèse. Et dans cette fin de thèse que je lui avais soumis, il y avait déjà une ébauche, en quelque sorte, de volonté de créer un modèle de synthèse. Et on l'a fait ensuite ensemble. C'est lui qui a rédigé le texte, mais c'est, disons, fondé essentiellement sur mon travail et celui des autres. Et c'est le modèle de Monod-Wyman changeux qui a été publié en 1965 et depuis a reçu 10 000 citations, ce qui est un chiffre record. Donc, vous voyez, dans la construction de ce modèle, il y avait une composante esthétique à coup sûr. Et comme le disait Jacques Monod lui-même, un modèle laid n'a aucune chance d'être vrai. Un modèle beau a ses chances.
Côté de Jacques Monod, oui. Vous allez donc rentrer à l'Institut Pasteur et vous initiez donc à la biologie moléculaire, entre autres, une discipline au croisement de la génétique, de la chimie et de la physique. Et vous allez vous former donc à cette discipline assez balbutiante à l'époque. Et vous dites dans votre livre qu'à ce moment-là, dans les années 60, les disciplines scientifiques étaient enseignées de façon assez cloisonnée. Par exemple, dans votre formation, on vous a inculqué une vision très traditionnelle de la biologie qui remonte donc au 19e.
Ah non, la biologie n'existait même pas. Il y avait zoologie, botanique, géologie.
Et on ne tenait absolument pas compte de l'ADN, non, de la génétique. Non. Et vous, vous avez choisi de dépasser tous ces cloisonnements disciplinaires.
Ah oui, oui, mais enfin ça, ce n'est pas moi qui ai choisi. J'ai été convaincu par le milieu du laboratoire où Jacques Monod, très précisément, dans ses travaux antérieurs et surtout en collaboration avec François Jacob, a fait une synthèse de la démarche de la génétique et celle de la biochimie et a proposé ce modèle de régulation de la transcription, de l'adaptation enzymatique, pour employer un terme qui était courant à l'époque. Le mot adaptation n'est peut-être pas exactement le meilleur, mais enfin, il s'est souligné que, en présence de certains agents régulateurs, il y avait des synthèses de protéines qui étaient soit activées, soit réprimées. Et l'analyse qu'ils en ont faite dans ce célèbre modèle de l'opéron en 61, justement au moment où je commençais à travailler sur la série, ce modèle a eu aussi une énorme répercussion. Que quand j'ai effectué mon travail de thèse, d'abord j'ai eu des contacts avec François Jacob, puis avec qui était plutôt généticien, lui, et Jacques Monod qui est biochimiste. Et dans ce travail, j'ai essayé de mettre les deux ensemble et aussi de travailler sur des mutations de ces enzymes régulateurs, en plus du travail de biochimie. Donc pour moi, cet aspect était, si j'ose dire, dans l'environnement de Jacques Monod, absolument naturel. C'est pas moi qui l'ai découvert.
Je voulais aborder un autre point. Dans ce livre, vous citez énormément de philosophes grecs, oui, de savants, et vous abordez les questions scientifiques en partant de débats philosophiques très anciens. Par exemple, un débat qui agite beaucoup les scientifiques, qu'est-ce qui relève de l'inné ou qu'est-ce qui relève de l'acquis chez l'homme ? Et vous abordez la question avec Platon, Aristote, qui avaient deux visions différentes de la chose. Quelle place la philosophie a eue dans votre carrière de scientifique ?
Bon, je pense que dès les années d'étudiant, j'étais très intéressé par les ouvrages portant sur des sujets connexes de mes sujets d'intérêt, mes thèmes de recherche. Et j'ai lu aussi pas mal d'ouvrages, comme ceux de Colery, de Queneau, et d'autres personnes qui avaient associé à leur réflexion scientifique, disons, une réflexion philosophique. Et évidemment, les plus importantes d'eux, c'est Lamarck et Darwin. Il y a eu dès le départ, même au moment des protéines allostériques, j'ai cité Héraclite, en introduction de mon article de 61. Il ne faut pas oublier que la relation avec l'art est aussi très importante, parce que ces philosophes se sont non seulement intéressés à la science, à la connaissance scientifique, mais aussi à l'art, qui n'était pas séparé de l'époque.
Le passé a toute son importance et la dimension historique est très importante dans la démarche du scientifique. Mais l'avenir aussi. Jean-Pierre Changeux, vous venez de fêter vos 87 ans cette année. Et à votre tour, vous êtes devenu un mentor, un passeur de connaissances. Vous avez formé aux neurosciences des éminents spécialistes comme par exemple Stanislas Dehaene, qui
Bien
est
sûr.
Également membre de l'Académie des sciences aujourd'hui. Selon vous, quels sont les grands enjeux de cette discipline aujourd'hui ? Quelles sont les recherches fondamentales qui occupent et qui vont occuper les chercheurs en neurosciences dans les prochaines années ?
Bon, écoutez, déjà vous avez évoqué l'inné et l'acquis. Bon, l'inné, c'est tout ce qui est au niveau du génome caractéristique de l'espèce humaine et du cerveau humain. C'est une évolution qui se produit darwinienne, donc, les ancêtres de l'homme, comme les chimpanzés, enfin, qui sont des branches latérales, c'est pas des ancêtres directs, mais enfin, disons que il y avait à l'époque, c'est-à-dire il y a depuis 7 millions à 3 millions d'années, des antécédents. Et depuis ces premiers hominiens ou hominidés, peu importe le terme, on est arrivé à l'Homo sapiens. Donc il y a une génétique de l'enveloppe génétique du cerveau humain, de ce qui est inné, donc, qui est en cours. C'est loin d'être résolu. Même avec la découverte du génome de Néandertal, il reste encore beaucoup à comprendre pour savoir comment le cerveau des Australopithèques est devenu celui de l'Homo sapiens. Bon, il y a encore beaucoup à comprendre. Et il y a aussi à comprendre dans l'acquisition, la mémoire. Or, j'ai proposé avec Courage d'Anchin une théorie sur l'élimination synaptique au cours du développement qui permet de comprendre comment l'environnement social et culturel est capable de laisser son empreinte dans le cerveau du nouveau-né en développement. Alors là, c'est unique chez l'homme aussi. Non seulement l'homme a le langage, mais il met à peu près 15, parfois 20 ans pour devenir adulte. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement de taille du cerveau de l'homme de 5 fois en masse de la naissance à l'adulte. Et le nombre de synapses est à peu près la moitié des synapses totales du cerveau de l'homme. Elles se forment après la naissance. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des états d'exubérance connexionnelle qui sont ensuite sélectionnés pour donner lieu à l'empreinte, comme l'acquisition d'un langage particulier. Les nouveaux-nés de Chine ou de France ont les mêmes dispositions pour apprendre le langage, mais l'un apprend le chinois et l'autre le français. Donc il y a à la fois un jeu entre l'inné et l'acquis. Et la même chose pour, je dirais, l'empreinte culturelle peut plus évoluer comme les systèmes de croyances. Par exemple, en Chine, c'est le Confucius, c'est le taoïsme, etc. Il n'y a pas de croyance en Dieu. Quand on arrive dans les pays occidentaux, c'est différent. Il y a un système de croyance qui est autre. Et ça, ça fait partie de ce qui se dépose dans le cerveau au cours du développement et chez l'adulte également. Et là, je trouve que c'est une voie de recherche très importante. Et la dernière, c'est évidemment le monde des fonctions supérieures du cerveau de l'homme.
C'est-à-dire
à la fois ce qu'on appelle les sciences cognitives, les sciences de la connaissance, comment on produit et on stocke des concepts, des représentations cérébrales qui codent pour un sens qui peut être imagé ou abstrait, d'une part, et d'autre part, la conscience, dans un sens très restrictif, c'est l'accès à un espace de travail conscient que nous avons proposé avec Stanislas Dehaene, un travail neuronal conscient, où on propose qu'il y a des mécanismes de globalisation et au sein de ces systèmes globalisateurs uniques, il y a des sélections qui se produisent. Là encore, c'est une sorte de darwinisme mental. Mais dans ces conditions, on peut élaborer un raisonnement et construire un modèle scientifique ou une pièce de musique. Et ça, il y a une articulation dans le temps qui est évidemment très importante dans cet espace de travail neuronal conscient. C'est une hypothèse, hein, encore, et elle a, disons, un certain succès, mais ce n'est pas vraiment une démonstration finale. Hein, il reste encore beaucoup à faire. Et je pense que dans ce domaine, il y a une voie très importante de recherche pour l'avenir. Alors évidemment, quand on parle de ça, tout de suite, vous dites « Ah, mais est-ce que vous connaissez ChatGTP ?» Alors je dis « Oui, oui, très bien. » Il est capable de répondre à un certain nombre de questions, parfaitement bien. D'autres, comme le citait d'ailleurs Stanislas dans son cours, ChatGTP ne sait pas distinguer entre un demi et deux quarts. Et ça, c'est des aspects purement techniques, mais plus globalement, en un mot, il n'a pas, si vous voulez, de sens commun. Et qu'est-ce que c'est que le sens commun ? C'est tout ce qui a été accumulé dans le cerveau de l'homme au cours de son développement. En plus, évidemment, cette enveloppe génétique dont on a parlé. Et là, si vous voulez, il y a toute une série d'expériences successives qui se sont accumulées, qui varient d'ailleurs d'un individu à l'autre, et qui constituent, si vous voulez, un cerveau culturel, si on peut employer le terme, moi, que je n'aime pas tellement, mais enfin, disons, l'empreinte de la culture jusqu'au niveau de la conscience est telle que lorsqu'on prend une décision consciente, on a en quelque sorte derrière soi tout un passé qui vous fait prendre une décision dans une direction ou dans une autre. Et je crains que le ChatGPT n'y arrive pas.
Dans ce livre, vous abordez la question très intéressante de la responsabilité des scientifiques à l'heure où le progrès technique ne connaît plus de limites et où l'urgence climatique devient prépondérante. Est-ce qu'il faut que les scientifiques prennent davantage la parole pour alerter et sensibiliser le grand public ?
Bien entendu. Mais je pense qu'il y a plus encore. C'est que d'abord, les scientifiques devraient se poser la question de ce qui peut être fait de leurs découvertes. Ça me paraît être un point très important. C'est ce qu'on peut dire une dimension éthique de la découverte scientifique. Et ça, je pense que c'est une première responsabilité majeure des scientifiques. Il existe d'ailleurs en France un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et là, on commence à réfléchir à l'informatique et aux mathématiques. Parce que quand on parle d'éthique aux mathématiciens, ce n'est pas nécessairement la chose qui les intéresse en premier chef. Là, je pense que les progrès de l'informatique sont tels que ça pose des questions de société très importantes. Donc ça, c'est la première des choses, c'est, si vous voulez, cette responsabilité citoyenne, et je dirais même de citoyen du monde, dans le travail que nous faisons en tant que scientifiques, et d'essayer de voir ce qui en est fait, et dans quelle mesure on peut ou non empêcher que le détournement se fasse. Parce qu'il se fait, malheureusement. Comme vous savez, un pasteur a dit qu'il fallait faire son travail scientifique pour le bien de l'humanité. Il y en a d'autres qui le font pour tuer d'autres êtres humains. Donc ça mérite une très importante discussion et réflexion. Et à cet égard, le débat devient public. Pour ma part, je pense que l'existence d'un contact avec le monde politique est absolument essentiel et paraît nécessaire que non seulement les scientifiques aient une réflexion éthique, mais qu'ils en débattent publiquement, et en particulier, et tout spécialement, avec les politiques.
Alors justement, vous en avez débattu, vous avez présidé le Comité national d'éthique pendant 6 ans, et vos travaux scientifiques s'intéressent énormément aussi à la question de l'éthique. Quels sont les liens entre la science et la morale ? Vous dites que notre équipement cérébral est à la genèse de certaines règles éthiques. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça veut dire que nous avons dans notre système nerveux, alors ça poursuit la réflexion que nous avions ensemble sur la conscience, hein, et le débat conscient et l'enchaînement des représentations mentales conscientes en pensée et en proposition. Pour le cas de la science, ce sont des descriptions aussi précises que possible du monde extérieur, la connaissance objective du monde extérieur, qu'il soit physique ou humain. En ce qui concerne la dimension esthétique, et la dimension éthique, commençons par l'éthique, il y a un aspect très important que l'on a tendance à oublier. C'est la relation avec le système des émotions et de la vie sociale. Donc, chez un sujet comme vous et moi, quand on discute ensemble, on a aussi une perception de la réalité d'un être humain en face de soi, de savoir si on lui dit franchement la vérité ou pas. On n'essaye pas de détourner les choses dans un sens ou dans l'autre. Et là, il y a, si vous voulez, des systèmes d'évaluation et de récompense qui interviennent. La proposition que je fais dans le livre, qui n'est pas d'ailleurs particulièrement originale, hein, qui a été soutenue aussi par beaucoup, par plusieurs collègues, c'est que nous avons une dimension d'empathie, c'est-à-dire de connaissance de ce que pense autrui. Je parlais de l'interaction sociale dans la science, mais là, elle est encore plus précise et plus concrète dans la relation que nous pouvons avoir ensemble et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'autrui. Par exemple, si vous vous intéressez à ce que je dis ou pas, je le vois à vos yeux et votre sourire. Dans cette dimension d'empathie, il y a celle aussi de sympathie. La relation sympathique, c'est que si subitement une brique du plafond vous tombe sur la tête, j'arrêterai tout de suite le discours et j'irai vous porter secours. C'est aussi la parabole du bon samaritain. Et là, cet aspect sympathique fait partie des dispositions cérébrales de l'être humain. D'où l'idée que dans toute relation qu'on a avec le monde social, avec avant tout, si vous voulez, essayer par exemple de faire passer la science à la société, il y a cette dimension d'empathie et de sympathie, de portée sociale au niveau de la société, des découvertes scientifiques. Donc c'est pour cette raison que pour ma part, je suis très attaché aux questions d'éthique en ce qui concerne la science et l'avenir de l'humanité. Parce que je crois que c'est la seule voie possible pour que l'humanité ne disparaisse pas de notre Terre, c'est que la connaissance scientifique de l'environnement, de son évolution, mais aussi des relations entre êtres humains. Parce que j'ai parlé de la sympathie, mais malheureusement, certains chefs d'État n'ont pas, si j'ose dire, la sympathie suffisamment importante pour éviter des massacres. Donc, cette dimension éthique, pour moi, est tout à fait fondamentale.
Donc, la dimension éthique fondamentale pour vous, également la dimension artistique et esthétique.
Oui, bien sûr.
Vous vous êtes intéressé toute votre vie à l'art, à la création, toujours avec un œil de scientifique. Et vous avez toujours associé un aspect esthétique à votre travail de scientifique. Et vous avez même consacré un ouvrage à l'expérience esthétique, la beauté dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on observe une œuvre d'art, par exemple? Vous dites qu'il y a une forme d'ignition, d'embrasement, qu'est-ce que ça veut dire?
Et l'idée qu'on a proposée avec Stanislas, c'est qu'il puisse y avoir une sorte d'embrasement qui se produit, qui redistribue l'information à l'ensemble du cerveau. Pour moi, le système de récompense et d'émotion, etc., l'œuvre d'art rassemble plusieurs de ses composantes à la fois. C'est-à-dire qu'elle est à la fois représentation visuelle, de forme, de couleur, etc. Elle est en même temps signifiante parce qu'elle fait accéder par ses formes signifiantes à une émotion que l'on n'aurait pas autrement, c'est-à-dire qui est en dehors, au-delà de la perception naturelle, mais sans aucun mystère. Hein, c'est simplement que c'est plus complexe, c'est une espèce d'assemblée de composantes à la fois représentation individuelle et représentation sociale. Et en même temps, je pense qu'il y a chez l'artiste non seulement l'originalité, la composition dont on a parlé, mais aussi le message que l'artiste veut passer, l'exemplum. C'est ce que Poussin appelait l'exemplum. L'exemplum, c'est justement une composante éthique dont on vient de parler. Donc tout ça à la fois, ça fait beaucoup. Et disons, ça donne un impact émotionnel très important. Alors, il peut parfois être un peu pathologique, dans le cas du syndrome de Stendhal, si vous voulez, qui, lorsqu'il était entré dans Santa Croce à Florence, s'est évanoui. Je pense que c'est quand même un cas particulier et un peu excessif, mais il y a quand même une part de vérité dans le phénomène.
Vous collectionnez beaucoup de tableaux, mais vous avez aussi été commissaire de plusieurs expositions d'art autour de la peinture. Raconter la science à travers des œuvres d'art, est-ce que pour vous c'est un moyen avant tout d'initier le grand public autrement aux questions scientifiques ou plus largement de mettre en avant cette fameuse dimension humaniste
Les deux. Je n'hésite pas à dire les deux.
Les deux.
Parce que dans... La première exposition que j'ai faite, de Nicolas Delabatte à Nicolas Poussin, j'ai essayé de montrer la dimension évolutive de l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on passe du maniérisme de l'école de Fontainebleau jusqu'à Nicolas Poussin. Et si vous voulez, j'avais comme propos de souligner la dimension évolutive un peu contre les historiens d'art, qui, eux, clivaient, si vous voulez, maniérisme, classicisme. En fait, il y a une continuité et il n'y a pas de césure en 1600 ou quand on avant 1600, c'est maniérisme, après 1600, c'est classicisme. Donc il y a ça, c'est la première exposition. Donc on a essayé de faire une espèce de voie commune entre neurosciences et évolution de l'art et trouver beaucoup de points de jonction. Oui, très intéressant.
Ce qui est, au fond, le fil conducteur de vos recherches, mettre l'art et la science au service d'un humanisme plus généreux.
Alors ça, c'est la dernière exposition.
Sur les lumières
C'est la lumière, au siècle des Lumières, qui s'est tenue à Nancy pour célébrer, là aussi, toute cette importance des Lumières. Et l'idée qui peut paraître... là aussi, un peu particulière pour les beaux-arts, si j'ose dire, c'est que je suis parti de l'idée que Newton, qui n'est pas la mienne d'ailleurs au départ, peut-être plus la mienne pour la suite, au départ, Newton a influencé considérablement les scientifiques. Il a eu un effet considérable sur... Diderot, sur Bougainville et d'autres. Donc l'exposition a essayé de montrer que de Newton, on arrivait aux droits de l'homme. Donc cette épigénèse culturelle, en quelque sorte, était déjà présente, en quelque sorte. Et donc ça s'est terminé sur la Révolution américaine, la Déclaration des droits de l'homme, et sa présence urgemment demandée encore aujourd'hui.
La dimension sociale, toujours présente. Un grand merci Jean-Pierre Changeux d'avoir retracé cet itinéraire scientifique exceptionnel qui éclaire beaucoup de questions d'actualité brûlantes aujourd'hui. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus et se plonger avec plus de précision sur toutes vos recherches, je rappelle que le livre s'appelle « Le beau et la splendeur du vrai » et est disponible aux éditions Odile Jacob et Albin Michel. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, très chaleureusement.
Canal Académie.
La plateforme de podcast
de l'Institut de France.